a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Michel Joseph et Fred assurent la production de cette émission mise à nom de par Souleymane Tara Wale. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Le président américain est hors des États-Unis depuis vendredi dernier. Donald Trump effectue en ce moment sa première tournée internationale depuis son arrivée au pouvoir. Une tournée qui l'a conduit en Arabie Saoudite, en Israël, au Vatican, à Bruxelles pour un sommet de l'OTAN. Et depuis ce vendredi, Donald Trump et les autres leaders du G7, le club des sept pays les plus industrialisés du monde, sont réunis à Taormina. Que pensez-vous de la première tournée internationale de Donald Trump? C'est autour de cette question que s'articule l'Amérique et vous de ce vendredi. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Appelez-nous en direct pendant l'émission au 001-202-205-26-33. Sims Lumami se chargera de collecter vos coups de fil. Pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Henri Désiré Nzosi depuis la Belgique. Il est consultant. Henri Désiré, bonsoir.
Bonsoir.
Restez avec nous. J'ai également Armel Kakongo en Italie. Armel, bonsoir.
Bonsoir.
Et ici à Washington, Anan Selouani Idrissi. Elle est membre de la société civile et spécialiste des questions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Anan, bonsoir.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Voilà, je vous en prie. On va commencer par une question toute simple. Qu'est-ce que vous avez, vous, noté comme fait marquant de cette première visite de Donald Trump, j'allais dire, pour cette première tournée internationale de Donald Trump? On va commencer par Anan.
Oui. Je pense qu'elle est encore tôt de faire un bilan de la réussite ou non réussite de la visite. Mais en général, je pense que monsieur le président, il n'a pas annoncé un grand changement vis-à-vis ses décisions et surtout ses déclarations pendant la campagne électorale. Donc on n'a pas vu un grand changement, à l'exception de ce qu'elle a dit lorsqu'elle a fait des réunions avec le président israélien et palestinien. Donc là il y avait un petit changement en ce qui concerne ces déclarations en avant, mais en général je ne pense pas qu'il y avait un grand changement.
Voilà, merci beaucoup Anan. Henri Désiré, vous, qu'est-ce que vous retenez de prime abord comme impression de cette première visite, cette première tournée de Donald Trump à l'international?
Bon, évidemment, il était attendu au tournant, chacun scrutait ses moindres faits et gestes et ses déclarations, encore que les gens s'intéressaient davantage sur la forme que sur le fond. Disons que pour l'instant, il n'a pas commis de faux pas, il a plutôt eu une démarche pragmatique, notamment vis-à-vis de l'OTAN. Nous verrons ce que donnera la conclusion du sommet du G7 pour savoir si effectivement Donald Trump est dans une logique d'ouverture sur le monde ou de repli sur soi.
Voilà. Ah, donc, on va poursuivre le débat tout à l'heure. Je vais recueillir l'avis de Armel Kakongo en Italie. Vous, qu'est-ce que vous pensez de prime abord de cette tournée, notamment l'étape italienne, le Vatican et le G7?
Et ce n'est que normal que le président Trump vienne en Europe, précisément en Italie, où ce que je réside, et par rapport à sa tournée, ce n'est que normal qu'il vienne voir le Saint-Père, parce que quand nous parlons du Saint-Père du Vatican, nous parlons d'abord de la paix, parce que le Vatican, mais le pape n'aime pas la guerre. Et puis bon, ce qui concerne le président Trump par rapport à sa tournée, ce n'est que normal qu'il vienne réchauffer les relations entre les États-Unis et l'Europe et ses pairs européens. Parce que nous connaissons la politique des États-Unis. Il fallait bien cette tournée pour essayer de donner aussi confiance à ses pairs européens.
Voilà,
nous
donc
attendons les conclusions du G7. Pour avoir cette réponse.
Voilà. Merci, vous restez avec nous. Également, on va prendre notre premier auditeur au bout de la ligne. Il s'agit de Christian Djarabi. Christian, bonsoir. Christian, est-ce que vous m'écoutez? Voilà. Vous nous avez écrit sur Facebook aussi. Vous dites que le voyage de Trump se focalise sur les pays émergents et non sur les pays en voie de développement. Pourquoi vous dites cela?
Oui, pour qualifier cette visite, une visite internationale, il faudrait que Donald Trump visite au moins 5 pays africains. Mais si Donald Trump ne vient pas en Afrique, ce n'est plus une visite internationale. Et bien, c'est parce que les pays africains sont dirigés par les dictateurs. Et que les principes de la démocratie ne sont pas respectés, que Donald Trump ne veut pas visiter l'Afrique. Je ne comprends pas pourquoi dire une visite internationale.
Voilà, merci Christian. Peut-être je vais retourner votre question à Henri Désiré. Henri, pourquoi est-ce que il n'y a pas eu d'étape africaine à cette tournée?
Écoutez, chaque chose en son temps. Hein. Je pense que il faudra être simplement attentif à la posture que Donald Trump aurait vis-à-vis de l'Afrique. Mais je comprends tout à fait l'inquiétude de votre auditeur, parce qu'il faut quand même rappeler que dans le projet du budget fédéral 2017-2018 qui prévoit quand même de supprimer 650 millions de dollars de contributions américaines aux banques de développement multilatérales comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Voilà, c'est un mauvais signal qui peut justifier une forme d'inquiétude, mais par rapport à l'Afrique, je pense qu'il faut donner du temps au temps, peut-être que Trump envisagera une tournée sur le continent.
Voilà. Anan, dites-moi, Donald Trump, pendant la campagne, avait tenu des propos qui n'ont pas beaucoup intéressé le monde musulman. Pourtant, sa visite, il a commencé sa visite par l'Arabie Saoudite. Pourquoi?
Oui, je pense que d'après les analyses qu'on a reçues avant la visite, que c'était une tentative de commencer de nouvelles relations avec le monde musulman, etc. Mais je ne pense pas que la visite a changé grand-chose dans ce sens, parce qu'en premier lieu, dans son discours en Saoudi-Arabie, elle a insisté beaucoup sur le volet sécuritaire et la lutte contre ISIS, Daesh. Donc, et en deuxième lieu, elle n'a pas annoncé aucun changement vis-à-vis ce qu'elle a déclaré durant la campagne électorale. Et plus précisément, par exemple, la décision qu'elle a prise après sa nomination concernant ce qu'on appelle le travel ban, qui est contre
la Constitution américaine.
Qui est contre la Constitution américaine et qui détermine 7 pays qui sont des pays de la majorité musulmane. Donc je ne pense pas que c'est un grand changement. Au contraire, je pense que l'importance qu'elle a donnée au volet sécuritaire ne sert pas un grand service à la population du Moyen-Orient. On a vu que les pays, les dirigeants de ces pays, ils vont prendre ce volet sécuritaire pour faire beaucoup de pression sur les droits les droits civils. Et on a vu comment l'État égyptien a réagi deux jours ou trois jours après le discours pour fermer plusieurs sites d'information électronique.
Ah, tout à fait.
On a vu aussi ce qui s'est passé aussi au Bahreïn. Il y avait aussi une escalation contre des gens qui ont été de protester. Donc je pense que le volet sécuritaire était plus premier, et on comprend pourquoi, parce que c'est en vue de la du combat contre Daesh et etc.
Voilà.
Mais je pense que parce que l'absence du volet droit de l'homme, du volet de principe humanitaire, etc., était totalement absent. Ça peut avoir des répercussions qui ne sont pas en favorable des populations de la région.
L'Arabie Saoudite, on a effectivement constaté qu'ils n'avaient pas évoqué la question des droits de l'homme et même les médias américains s'en sont un peu inquiétés. Alors, on va prendre Brahima Doumbia qui nous a écrit sur Facebook et qui évoque également l'Arabie Saoudite. Vous soulignez qu'il est parti en Arabie Saoudite parce qu'il devait y avoir des gros contrats.
Effectivement, en Arabie Saoudite, comme on le sait tous, l'Arabie Saoudite est un pays clé, je dirais, pour les États-Unis. Plus le rôle de jouer l'Arabie Saoudite au Moyen-Orient consiste les parts de marché en termes d'armement. Si les États-Unis se laissaient prendre cette part de marché, surtout par les Russes, il fallait que le président Trump se rend en Arabie Saoudite pour conclure ce marché qui est historique, je dirais historique, du fait de la somme qui avoisine les 300 à 400 milliards de dollars. Ensuite, il faut reconnaître que l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, est un allié de longue date des États-Unis et il soutient les États-Unis dans toutes les luttes, dans tous les combats contre ce qu'on appelle le djihadisme aujourd'hui. Ensuite, il faut noter aussi que Donald Trump, sa visite à Bruxelles, n'a pas changé la donne. On a cru qu'il allait changer sa politique envers les Russes, mais jusqu'à présent, on sent qu'il est toujours ferme à l'encontre des Russes, ce qui nous fait dire, lors des campagnes, c'est prétendu que il était pro-russe, mais on constate le jour qu'il est russe. Mais il est toujours.
Voilà, on a du mal à vous entendre, Doumbia. Merci pour votre contribution. Il faut dire que sur le dossier russe, il y a un des beaux-fils de Donald Trump qui est également visé en ce moment par une possible enquête du FBI. Je vais revenir vers vous, Henri Désiré. L'étape de Bruxelles, c'était l'OTAN, mais c'était aussi des manifestations à Bruxelles, des gens qui ne voulaient pas de Donald Trump. Comment est-ce que vous analysez cette étape-là? Où, par ailleurs, Donald Trump a demandé aux membres de l'OTAN de mettre la main dans la poche.
Alors d'abord, par rapport à l'accueil et par rapport aux manifestations, il faut dire qu'une certaine opinion européenne est restée focalisée sur l'image que Donald Trump a donnée de lui durant la campagne. Donc c'est assez difficile pour cette même opinion de penser que Trump a opéré sa mue. Ça c'est une première chose, une forme de méfiance, notamment due aux prises de position extrêmement fortes qu'il a eues durant la campagne. Maintenant, il y a l'exercice du pouvoir, on est confronté, je dirais, à la réalité. Vous venez d'évoquer effectivement la situation avec l'OTAN, où il n'a même pas pris la peine, lui, Donald Trump, d'adhérer au fond à ce fameux chapitre 5, hein, qui rappelle notamment la nécessité de pouvoir venir en aide à un pays membre qui a des difficultés. Il est directement passé au considérations financières, ce qui était tout à fait justifié, il faut bien le rappeler bien évidemment, mais ça a quand même jeté un certain froid, puisqu'on aurait pu penser que son approche aurait été un peu plus humaniste. Pour autant, il a rappelé notamment la nécessité de doter l'OTAN des moyens nécessaires qui lui seraient, qui lui permettraient de faire face à ses obligations et à ses responsabilités.
Et dans une interview que vous avez accordée à VO Afrique, Henri, vous disiez que Donald Trump se comporte comme un banquier. Comment cela ?
Oui, ben il a rappelé, parce qu'il faut quand même rappeler que sur les 28 pays membres, il y en a à peu près 23 qui ne sont pas en règle de cotisation. C'était une manière de les rappeler à leurs obligations. L'OTAN est une famille, chacun doit mettre la main à la poche. Et pour que l'on puisse mutualiser les efforts dans le cadre de la mission de l'OTAN sur les différents théâtres d'opération, avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme, il est important que chaque État prenne ses responsabilités.
Voilà, je vais prendre Diarra Kanyoumé au téléphone. Diarra, bonsoir.
Oui, bonsoir à toutes les rédactions de VO Afrique.
Alors, vous insistez sur le fait qu'il ne soit pas, on l'a évoqué en début d'émission, qu'il ne se soit pas arrêté en Afrique. Qu'est-ce que ça aurait changé?
Oui, effectivement, il faut imaginer, monsieur le journaliste, depuis les campagnes de Donald Trump jusqu'à son arrivée dans la Maison Blanche. Donc, à mon avis, je pense que vraiment, je ne vois rien dans sa stratégie politique américaine. Depuis qu'il est venu au pouvoir, vraiment, il est en train de modifier la constitution qui ne terminait pas. Il faut imaginer aussi, depuis M. Obama qui a quitté au pouvoir dans la Maison Blanche, donc Donald Trump est en train de réagir vraiment. Ça n'arrivait pas les peuples américains, même les peuples africains aussi. Il a fait le tour d'un pays qui lui intéressait. Donc, à mon avis, il n'a pas fait le tour international parce qu'il a fait les pays qui lui intéressaient, qu'on peut trouver son intérêt là-bas.
Voilà.
Même
donc,
avant-hier, il y a M. Pape qui a rencontré avec lui. Donc, je pense que conseil que M. Pape François l'a donné à Donald Trump, donc il n'a pas prendre cette mesure en tant qu'un président de la Maison Blanche.
Voilà.
Vraiment, il n'y a rien qui est changé dans les politiques américaines, même africaines aujourd'hui.
Merci Diarra Kanyoumé. Vous avez parlé du pape François. On va repartir en Italie pour retrouver Armel Kakongo. Armel, effectivement, Donald Trump s'est entretenu avec le pape François. Ils ont beaucoup parlé de paix.
Oui, effectivement, ils ont beaucoup parlé de paix. Et puis bon, vous savez, tout chef d'État, quand il arrive au pouvoir, ce n'est que normal qu'ils viennent prendre la bénédiction papale. Voilà, ils ont beaucoup parlé de paix. La paix doit régner dans le monde. Nous savons que le président Trump, c'est un homme qui est un peu chaud. Alors, ce n'est que normal qu'il rencontre le pape pour essayer d'atténuer un peu, mais un peu sa fougue, quoi, s'il faut dire ça comme ça. Bon, et puis après cela, il a rencontré le Premier ministre Gentiloni, le chef du gouvernement italien, et le président de la République Mattarella. Ils ont parlé sûrement de la bilatérale et la multilatérale, c'est-à-dire la partie économique et la partie politique, pour essayer de faire un peu le tour d'horizon, voir comment l'Italie et les États-Unis pouvaient collaborer dans le plus grand sens, quoi.
Voilà, merci beaucoup. Anan, le pape, j'allais dire Donald Trump, a aussi fait une étape en Israël. Comment vous analysez cette escale-là?
Oui, c'est un escale qui est très important et on ne peut pas visiter la région MENA sans faire un escale là-bas. Comme j'ai déjà mentionné, donc c'est encore très tôt de faire un bilan. Donc on doit attendre les jours qui viennent pour voir comment ça va traduire en action.
Alors, Henri Désiré, le pape n'a plus, j'allais dire, Donald Trump n'a pas évoqué en Israël le déplacement de la capitale américaine à Jérusalem, ni les murs. Pourquoi est-ce qu'il a évité ces questions, tout au moins directement?
Mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le temps de la campagne est terminé. Maintenant, place à la réalité et à l'exercice effectif du pouvoir. C'est évidemment terrain miné qu'il est allé en Israël, mais je pense qu'il a été pour une fois bien briefé afin de ne pas prêter le flanc à la critique. Je dirais qu'il a eu une attitude plutôt mesurée, même s'il a rappelé à quel point le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël était fondamental.
Voilà, on va vous rester avec nous, chers invités. On va prendre quelques auditeurs. Yugo Wapi, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs de Voix d'Afrique.
Voilà, votre réaction?
Oui, comme je l'ai dit dans mon commentaire, à mon avis, et je pense aussi que c'est beaucoup d'avis aussi de beaucoup des auditeurs, la visite, la sortie de Donald Trump, vraiment, c'est une sortie vraiment qui explique tout, puisque il a compris le jeu politique vraiment il est enfin entré dans l'arène politique puisque
c'est quoi ce jeu politique en quelques mots?
Oui, le jeu politique, c'est quoi? C'est puisque nous savons comment le monde actuellement est contrôlé, puisque son premier déplacement était où? C'était en Arabie Saoudite. Bon, l'Arabie Saoudite, ce sont les hommes qui fabriquent même les terroristes, si je peux le dire, dans le monde. Et les États-Unis savent pourquoi, ils savent comment ça se passe dans le monde.
Voilà. On vous a compris. Désolé, Youpi. On va prendre Hassan Omar. On est pris par les délais. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
En quelques mots, votre réaction?
Bon, je crois qu'il a bien réussi parce que dans ce tournée-là, il cherchait la bénédiction Bethléem, Jérusalem, Riyad, en fait, l'Arabie Saoudite. Donc, essayez de voir parce que Trump est imprévu. Peut-être il va chercher à venir en Afrique aussi, simultanément et spontanément. Donc, avec Trump, c'est l'imprévu. Hein.
Voilà.
Est possible. Mais est-ce qu'il va rester au pouvoir aussi, la question qui se pose?
Voilà, ça, on le saura peut-être. Claver, en quelques secondes, vraiment, votre réaction.
Oui, en fait, je dirais, comme j'ai dit, j'ai une très belle investigation de la part du monsieur, en fait, du président américain, monsieur Trump, en fait. Mais le délire, c'est que pourquoi pas penser à l'Afrique? Peut-être parce que, en fait, je me dis, je suis bien dit, parce que, en fait, l'Afrique est un peu pour lui et également.
Voilà, c'est entendu. On avait évoqué Claver cela, sûrement que Trump ou ceux qui travaillent avec lui lui rappelleront. On va faire un dernier tour de table pour parler du G7. On commence par vous, Anan. Qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir du G7? Il parle du climat, du terrorisme et puis du commerce international.
Je pense que on doit attendre tout d'abord la conclusion de cette grande réunion, mais je pense que monsieur le président, elle a déjà fait allusion à son perception de la sommet hier lorsqu'elle a fait l'allusion à l'obligation des membres de payer leur part.
C'est entendu. Désolé, Anan. Henri, en quelques secondes, le mot de la fin pour vous sur le G7.
Non, je dirais que il y a le communiqué final, en fait, traitera de manière très, très partielle de l'immigration. Le texte ne sera pas du tout ambitieux. C'est un peu dommage parce que les États-Unis ont fait pression pour qu'il y ait une simple mention dans le communiqué final alors que le gouvernement italien avait prévu un texte séparé. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on s'achemine vers un échec.
Voilà. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Désolé, le temps était très court. Michel Joseph a produit cette émission. Sims Loumami recevait vos coups de fil. Souleymane Tarawale était à la mise en onde. John Lyndon, je vous ai présenté cette émission. Merci d'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de Abdourahmane Dia pour les infos sur VOA Afrique. Bonsoir.